Sur Radio Campus Tour, bonjour à vous qui nous rejoignez et qui nous écoutez. Vous écoutez La Méridienne, la nouvelle quotidienne de Radio Campus. Avec moi aujourd'hui en studio, deux invités. Bonjour Roland Lebré.
Bonjour.
Et bonjour Dimitri Tsiapkinis.
Bonjour.
Alors messieurs, si vous êtes aujourd'hui en studio avec moi ce matin, c'est pour nous parler d'un événement qui arrive ce 27 septembre. C'est Newtopia 7.4. Alors peut-être qu'on peut tout d'abord expliquer de quoi il retourne. C'est quoi ce Newtopia 7.4 ?
Oui, Newtopia, c'est un projet qui a commencé presque spontanément, en 2013, qui était une évolution logique du travail fait en milieu psychiatrique autour de la danse contemporaine, initié par l'ancien directeur du centre chorégraphique de Tours, Bernardo Monte. J'étais dans l'équipe et à l'époque, il m'avait laissé diriger cet atelier qui a pris de l'ampleur. On a décidé de valoriser l'expérience des patients et de l'équipe soignante en amenant ces expériences sur scène. Et depuis qu'on a commencé cette série d'événements annuels, Newtopia, on est au numéro 7 cette année, ça fait 7 ans. Et depuis plusieurs années, je pense même depuis le début, 2013, il y a eu les Arpents d'Art, où Roland Lebré, il est président, qui nous ont accompagnés, ils nous ont épaulés pour cette tâche difficile et complexe, mais extrêmement riche en émotions, en rapport au public, en échange, et en écriture, en plein de niveaux.
Alors je me tourne vers Roland Lebré, donc Dimitri Tsiapkinis a mentionné les Arpents d'Art. Est-ce que vous voulez nous expliquer ce que sont les Arpents d'Art ?
Les Arpents d'Art, c'est une association faite pour tenir compte du désir de quelques patients qui nous ont demandé de créer une association qui a été créée. Et donc, on a ouvert à tout. la peinture, bien sûr, ça, parce qu'il y en avait un qui était qui est un artiste finalement, la peinture, le théâtre, et puis la danse, voilà. Moi-même, je me retrouve dans la troupe depuis, ça va faire la deuxième année, mais on a pris dès le début de la création de l'association, 2008, moi j'ai pris ma retraite en 2013, on a créé comme on n'avait pas de subvention de personne, donc on a créé un fonds de dotation, 37-37, et on a décidé de ne pas y rester isolé dans notre coin, et donc on a décidé de faire de subventionner un petit peu, parce qu'on n'a pas quand même beaucoup de sous, même avec notre fonds de 37-37, et bien d'aider financièrement un petit peu Omnivion, donc dit la troupe dont Dimitri s'occupe. Et puis voilà, il y a des rencontres et.
Et alors,
ça continue, quoi.
Roland Lebré, il faut dire aussi que vous êtes du métier, entre guillemets. Voilà, vous avez travaillé en psychiatrie.
Oui, 41 ans.
Voilà, donc si. Je le précise pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, voilà pourquoi vous avez aussi cet intérêt pour ces liens entre création artistique.
Écoutez, moi je pense qu'il reste contrairement à ce qu'on peut entendre même aujourd'hui, je suis plutôt d'une orientation psychanalytique.
C'est pas un gros mot, hein, vous pouvez
dire. Donc maintenant c'est un peu banni, mais bon, il y a urgence de le restaurer un peu, même dans tout ce qu'on fait, pour réfléchir même sur ce qu'on fait. Et donc moi, vous savez, la folie me reste malgré tout une énigme. Et voilà, donc j'ai accepté que. De cette association et puis le travail qu'on fait parce que c'est pour moi une recherche jusqu'à ma mort sans doute.
Voilà, il faut dire donc que vous accompagnez le travail d'Omnivion, de Dimitri Tsiapkinis, c'est de la danse, mais les Arpents d'Art, c'est plein d'autres choses aussi. Vous avez un atelier de création
artistique. À la Morinerie, oui, à Saint-Pierre-des-Corps. On fait des expositions, on fait du théâtre, on s'occupe de la poésie, etc.
Alors peut-être qu'il faut souligner aussi, messieurs, que dans ces projets que vous mettez en place, l'idée c'est pas de faire la nef des fous, c'est accessible à d'autres personnes, aussi bien la
ah ben, ateliers... C'est-à-dire que... notre projet, c'est les projets identiques à Dimitri, c'est que le travail qui est fait par les gens qui ont eu des difficultés psychiques et qui en ont toujours, eh bien nous participons comme eux aux créations, au travail de ce que nous faisons, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas. Enfin, moi je sais pas si j'ai... Certains diront que j'ai des problèmes. Moi aussi, parfois, je peux me le dire. Mais on est tout simplement des gens qui s'intéressent à quelque chose, qui ont envie de créer quelque chose. Et ça, ça fait, voilà, ça abolit toutes les autres différences de maladie, de folie, de tout ce que vous voudrez. De ne pas être intellectuel, de ne pas connaître la littérature, etc., etc. Tout ça, on ne s'en occupe pas. On fait des choses ensemble et on veut le montrer au public. Parce que si on ne sort pas des problèmes de la psychiatrie dont j'entendais encore parler hier soir sur France Inter, si on n'en sort pas, c'est tout simplement parce qu'on continue à penser que les patients se sont victimes de déficits. C'est déficitaire, c'est une vision déficitaire. Ils sont malades, ils sont chroniques à vie, etc., etc. Le déficit, ça a toujours été depuis la psychiatrie du 19e siècle. Donc ça a toujours été, et nous on considère que ces gens ont des capacités très importantes, même des nécessités de créer, d'inventer, de construire quelque chose pour aller mieux, puis se mélanger aux autres. Ce sont des humains comme tout le monde, ils ne sont pas atteints de déficits qui stigmatisants. Ils sont capables de créer, il suffit de créer les conditions. Alors quelquefois c'est difficile, c'est compliqué, mais on y arrive toujours parce que c'est comme ça, parce qu'on on a aussi le désir de le faire. Quoi.
Hein? Vous voulez intervenir, Dimitri?
Oui, je voulais rajouter exactement à ces discours qui est en résonance avec nos préoccupations omnivions, parce qu'on voit dans plusieurs domaines de la vie sociale de ce phénomène de glisser l'individu vers un rapport des réseaux vers un objet. L'individu devient de plus en plus un objet, et en milieu psychiatrique aussi, plutôt que de le considérer comme un sujet vivant qui a besoin de temps et des rapports humains. On le voit comme un système de réponse sur un questionnaire qui va être traité par rapport à un protocole, alors de plus en plus protocolaire avec des médicaments et de moins en moins de temps humain. Et pour nous, en art, évidemment, et en danse, le temps, c'est primordial. C'est notre rapport au monde, notre rapport à nous-mêmes. C'est ça qui nous soigne, même entre guillemets, même si on ne va pas aussi mal que certains qui sont dans l'équipe. Mais ça, c'est quelque chose qui soigne des états d'être en nous qui n'ont pas de place, qui n'ont plus de place dans la société. Parce que tout est quantifié, quantifiable, et on laisse très peu d'espace d'expression pour les citoyens. Et l'autre chose, c'est qu'on est aussi en résonance avec la mouvance artistique, et ça devient de plus en plus banal aujourd'hui, qu'on appelle métamoderne, où on n'est pas attaché à une stylisation artistique spécifique, mais on se laisse nourrir de toute mouvance, du modernisme, postmodernisme, art brut pour certains, qui est un terme protégé apparemment. Et on a des artistes locaux aussi qui nous inspirent. Sébastien Rousseau, avec qui on va faire aussi une petite collaboration avec les Arts Pandar et Omnivion en 2020, printemps 2020, une exposition que lui il appellerait plutôt post-brut, est né au singulier, j'aime bien ce terme, où l'art, voilà, s'élibère, s'émancipe, ça part d'un professionnalisation extrême et se démocratise. Et pour être dans la fluidité d'un citoyen qui a besoin de s'exprimer et a de choses à dire. Voilà, cette limite entre professionnel et amateur, il est un peu flou dans nos approches.
Voilà, donc Sébastien Rousseau, hein, qu'on a eu le plaisir aussi de recevoir ici à Radio Campus Tours. Donc auditeur, vous retrouverez bien sûr son interview aussi sur notre site. Et je crois aussi qu'il... Il propose avec Bernadette Gridley une revue d'art brut qui s'appelle Tract. Je crois qu'ils font ça aussi.
Ah oui.
Oui, oui.
Voilà,
donc je suis abonné. Mais,
c'est abonné.
Super. C'est super. Hein, c'est, vraiment, c'est unique, ce magazine. C'est incroyable.
Alors, dans cette ligne-là, nous aussi, nous avons sorti depuis troisième numéro d'Omnibrut.
À petite échelle.
À petite échelle. Donc, ça se fait. Donc, il y a un article de Rousseau dans le dernier numéro qui vient de sortir, le troisième. Ce petit livret, cette lettre, on va dire, trimestrielle, n'aurait pas pu exister sans notre service civique qu'on a eu cette année sur les deux associations, Omnivion et les Arpendards, par le biais de Transept 37, finalement, puisqu'elle a fait son service civique dans le cadre de Transept 37 et a ventilé son travail sur les deux associations. Et c'est une revue où on fait des choses, on passe beaucoup de temps, quelquefois on est un peu... On est dépassé quelquefois, en tout cas moi ça m'arrive, et de créer une revue qui parle de notre travail, mais qui va chercher un peu qui tente d'aller chercher les ressorts de notre travail, ce qui peut nous motiver, de réfléchir sur notre travail, et non pas seulement uniquement de faire. Et donc les danseurs, les peintres peuvent écrire, ont écrit d'ailleurs dans les trois premiers numéros, qu'ils écrivent aussi eux-mêmes sur leur travail, qu'ils réfléchissent aussi un peu sur leur travail, et même l'analyse quelquefois un peu leur travail. Et donc voilà, c'est une revue qui va durer, parce que je pense que c'est la meilleure. C'est, non seulement on veut que le public accueille le maximum de publics, les publics les plus variés, ces personnes qui sont avec nous, mélangées, hein, mélangées, les mieux portants, les moins bien portants, etc. Et on veut que ce travail aussi, ne pas que ce soit seulement du faire, mais aussi que ça entraîne une réflexion qui peut permettre aux gens de mieux comprendre ce pourquoi, le comment, etc. Et puis d'ouvrir sur le monde de cette création qui est ouverte à tout citoyen, à toute personne, normalement.
Voilà, je m'incruste pour dire là-dessus que on fait partie de la nouvelle mode, mais c'était le hasard qui nous a amené là-dedans. Maintenant, beaucoup d'événements commencent à s'appeler inclusifs. Nous, on était dans un principe depuis le début. Ça veut dire inclusive, c'est permettre l'existence sur scène à des spectacles professionnels et des personnes qui ne sont pas professionnelles. De tout le domaine, de tout statut social. On a sur scène, on a des personnes souffrant de psychopathologies, on a des personnes qui sont dans les minima sociaux, on a des psychologues qui s'occupent de certaines de ces personnes, on a des retraités, on a des profs de français, on a des enfants sur le spectacle, on a des musiciennes et des comédiennes professionnelles et un danseur professionnel. Voilà, on mélange un peu ces peuples qui se rencontrent, on a même des scientifiques, voilà. On a des différents statuts sociaux, ils se rencontrent pour créer ensemble. Et cette fois-ci, la thématique de cette soirée Utopia, c'est le vivre ensemble, entre autres. Qu'est-ce que ça veut dire c'est être citoyen et poser des questions, chacun, à son niveau, qu'est-ce que c'est la démocratie? Vivre ensemble et la démocratie. Et chaque participant, il amène ses matières. C'est pas moi comme directeur qui impose mes perspectives, mais j'invite aux interprètes, qui sont 22, d'apporter leurs matières et poser des questions et des réflexions sur le vivre ensemble et sur la démocratie.
Alors, ça veut dire que vous arrivez, est-ce que vous pouvez dire que vous faites communauté? Est-ce que vous formez une communauté avec toutes ces personnes très différentes et que la communauté, elle tient parce que vous avez une pratique artistique et intellectuelle commune? Est-ce que ça vous semble juste ou pas?
Oui, je dirais que oui, mais voilà, c'est pour ça, entre autres, la newsletter, on aimerait bien ouvrir cette réflexion à d'autres publics de Tours et aussi aux alentours, et pour ne pas rester vraiment dans un réseau des gens qui sont plutôt attirés par les questions psychiatrie, psychologie, etc., ou questions danse. voilà, l'élargir aussi aux étudiants, ça serait super d'avoir plus de curieux étudiants qui viennent. Et puis d'autres corps de métier, que ça devient encore plus inclusif dans la réflexion au moins.
Oui, parce que moi je dirais surtout pas une communauté.
C'est bien, mais c'est bien. Là, vous
surtout pas une communauté, parce que dès qu'on se met en communauté, on se ferme.
Ouais.
Hein? Donc, ce serait une communauté qui ne cherche qu'à s'ouvrir, mais pas à se refermer sur elle-même. Et c'est très difficile parce que tout c'est très difficile parce que aujourd'hui. Est-ce qu'il y a vraiment des réflexions? Oui, certainement, mais il faut, les réflexions ne sont valables aussi que si elles se mélangent, si elles se confrontent aux autres, et pour créer un tissu plutôt dans lequel on puisse créer, inventer, ne pas désespérer.
C'est important ça, de ne pas désespérer.
Ah ben oui, vu la situation actuelle en politique, en écologie, on nous envoie des images assez graves sur notre avenir pour nos enfants, et ça a l'air de déprimer beaucoup de monde. Autour de moi, en tout cas, il y a plein de gens qui s'inquiètent profondément, et certains, ils sont plutôt en réaction positive, ben on va se battre, on va changer des choses, et d'autres qui disent bon, on se laisse, voilà, on ne peut rien faire, on peut rien faire. Et voilà, c'est pour ça, c'est notre élan vital, c'est aller malgré cette négativité ambiante, aller vers quelque chose qui nous anime, qui apporte des réponses, des créations, plutôt que de la destruction, et aussi valoriser, hein, on valorise aussi dans le spectacle des petites clins d'œil environnementales où on se bat pour l'environnement, même si avec notre petite posture de colibri, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on fait notre tâche de colibri, voilà, et c'est ça, c'est nécessaire dans ce moment, oui.
Danser sinon nous sommes perdus.
Comment ?
Danser, sinon nous sommes perdus.
Oui. Danser tout court, hein, parce que depuis la nuit des temps, la danse faisait partie de toute communauté et de toute aussi ouverture et libération de communauté. On avait toujours ceux qui transcendent les limites de la communauté en faisant des danses extatiques pour se libérer justement des règles et des pas spécifiques d'une communauté. Alors oui, la danse, ça rassemble la communauté, mais aussi ça libère l'individu.
Et bien sûr, ces mots, je propose de faire une première pause musicale. Nous allons écouter Sati en Orient par l'ensemble Sarbande. Et justement, c'est une danse gothique. On se retrouve tout de suite après. Thank you. Et nous sommes de retour sur Radio Campus Tour. Vous écoutez toujours La Méridienne. Nous écoutions Danse Gothique. Voilà, c'est l'ensemble Sarband. C'était sur leur disque Sati en Orient. Je suis toujours en studio avec mes deux invités, Roland Lebray et Dimitri Tsiapkinis. Pardon. Et voilà, je me dédouane en me disant que moi aussi j'ai un nom parfois pas facile à prononcer.
Ah oui, j'arrive pas.
Donc voilà, ça me donne une excuse. Alors messieurs, vous êtes venus ici parce que le 27 aura lieu le spectacle Newtopia 7.4, La Chute Enchantée. Ça aura lieu à la Pléiade, donc à 20h. On peut réserver sur le site Omnivion, c'est ça?
Oui.
Voilà, bon. Alors je voudrais revenir parce qu'il y a une question quand même qui me taraude, c'est comment on fait entrer la danse en psychiatrie? Comment on arrive à injecter la danse en psychiatrie? Parce que même si c'est là depuis 2013, mais à mon avis c'est pas simple tous les jours. Vous le disiez tout à l'heure qu'il y a tout un système de protocoles, de cases à remplir, et la danse c'est autre chose. Comment on arrive à créer cet espace de danse, cet espace dansé?
Je peux parler de notre propre expérience, tout en sachant que j'avais fait un effort, ça fait quelques années, de trouver d'autres tentatives d'amener la danse en psychiatrie. Apparemment, il n'y a pas autant que ça. J'ai fait une recherche de master universitaire en sciences humaines et sociales sur la danse en milieu psychiatrique. Et j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'ateliers de danse-thérapie et beaucoup de travaux aussi universitaires sur la danse-thérapie, mais presque rien en danse en soi, la danse sur la danse en soi, en milieu psychiatrique. Et moi, je revendique ça, comme j'écris aussi dans mon travail de recherche, je revendique cette approche d'amener juste l'art de la danse à ces publics-là, qui vivent dans une situation très difficile, en isolation parfois, en perte des repères, d'avoir ce plaisir de pratiquer un art sans être traité encore une fois comme des objets malades. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait dit Roland un jour, c'était super, il m'a donné les bons mots pour le dire, il dit oui, mais ces gens-là, ils en ont marre d'être traités comme des malades. Ils ont besoin d'être traités aussi comme des citoyens qui veulent pratiquer un art, et tout simplement, parce qu'ils passent leur journée d'être traités comme des malades, et ça pourrait être vraiment un soulagement déjà en soi qu'ils pratiquent un art en étant juste des pratiquants d'art. Et moi, je les traite comme ça, et parfois, ils étaient étonnés, les psys, les infirmiers, ils disent, mais vous leur parlez comme si c'était danseur professionnel. Et je dis, ben oui, parce que à leur niveau, je cherche avec leur langage, de leur transmettre mes envies esthétiques et demander aussi leurs propositions et je leur explique après qu'est-ce que je vois avec l'œil d'un chorégraphe et je les valorise et je leur dis vous avez aussi le droit de comprendre le processus créatif et chorégraphique et je vous vois à la hauteur d'un danseur professionnel. Et ça, c'était quelque chose qui faisait plaisir aussi à l'équipe soignante parce qu'ils se sont considérés et ça leur donne un élan d'action et ils se sont traités comme des égaux entre guillemets parce qu'il y a évidemment tout un tas de formations à traverser pour aller loin à ce domaine, mais quand même on a chacun de nous un minimum de capacité expressive qui peut toucher même le grand public, et d'où je me connecte à la racine de ce projet. Comment ça a commencé? Et justement, on l'a montré au public du Centre chorégraphique national de Tours, que c'était une petite chose, 150 personnes, et avec Bernardo Monté et l'équipe, le danseur, nous, on avait fait un travail collectif avec des femmes au foyer. À l'époque, c'était un atelier de femmes au foyer, de jouer le tour à la Rabière, qui était initié par Christian Livbardon. C'est une personne passionnante qui s'ouvre aussi au projet culturel avec le quartier. Et il y avait une psychologue dans le public, Evelyne Rebaud-Flachner, qui était très touchée justement par la qualité qui émanait de cette interprète amateur Et elle est venue nous parler. Elle se dit, mais ces femmes-là, c'est des retraitées, des femmes qui avaient du surpoids, d'autres qui étaient fragiles, elles avaient des problèmes de corps. Et elles étaient très touchantes. Et on a pensé qu'on voit un spectacle professionnel. Et est-ce qu'on pourrait envisager ça avec des personnes souffrantes en psychiatrie? Voilà, Bernard montait tout de suite. Ça l'a mis en voilà. Il était très motivé. Il a dit oui, faisons ça. Et nous a demandé, moi et un autre danseur, si on voulait bien s'en occuper. Et au bout d'un an, j'étais le seul qui était vraiment derrière le projet. Il m'a laissé le diriger. Et puis même à la fin du CCN, de mon contrat avec le CCN, j'ai repris le projet avec Omnivion. Et voilà, c'était une histoire qui a commencé par un atelier pédagogique, progressivement, qui va vers la scène pour ceux qui sont plutôt solides, parce que l'expérience de la scène, c'est quand même, ça peut être violent pour certains, et ça continue d'évoluer.
Alors peut-être qu'on peut dire, messieurs, pourquoi si ça peut être compliqué pour certaines personnes d'être sur scène. Peut-être qu'on peut le dire, on peut expliquer.
Mais c'est compliqué, par exemple... Celui qui peint ou celle qui peint, montrer son travail, par exemple, peut être dangereux immédiatement si on la laisse seule face au mur et à son œuvre. Le fait d'être regardé dans ce que la personne a fait, ça peut déstabiliser complètement quelqu'un. Alors, ça a commencé nous un peu. Ça a commencé à l'hôpital, en fait. C'est pour ça qu'il y en a quelques-uns, là, deux ou trois, qui ont voulu qu'on crée une association pour qu'elle vive après que je sois parti de là-bas. On avait mis avec Jean-Luc Lingelser, un infirmier, en place des expositions à l'intérieur de la psychiatrie. À l'intérieur de la psychiatrie, mais il n'y avait jamais. Seulement les œuvres de patients hospitalisés. Il y avait les œuvres de patients hospitalisés qui avaient bien voulu accrocher, qui avaient envie d'accrocher leurs œuvres, et un ou deux artistes extérieurs, des artistes reconnus comme artistes. Et c'est ce mélange de faire aussi revenir des artistes dans le milieu psychiatrique, mais avec, et d'exposer leur œuvre avec les patients, mais dans le lieu même où ils étaient, où ça avait été créé. Et je pense que c'est comme ça que ça, l'association a donné, enfin c'est pour ça qu'il y en a deux ou trois qui ont demandé à ce qu'il y ait l'association dure pour que ça se passe ailleurs. Et on l'a commencé à le faire d'ailleurs. L'ancien carré Davidson, rue des Cerisiers, il m'est arrivé d'avoir fait une expo de leurs œuvres, et avec des écrits de quelqu'un qui écrivait, qui écrit toujours, qui n'écrit plus en ce moment, mais elle a écrit des textes magnifiques. Donc voilà, on avait fait connaître ces textes, mais aussi il y avait des œuvres de d'autres patients. Et cette fois-ci à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on a dit, on ouvre, c'est une façon de, la culture, la création, c'est une ouverture qui peut passer par-dessus les frontières, même quand elles sont dures à abattre et qu'elles sont toujours là. On peut, c'est une pratique possible, même dans notre monde uniquement mercantile.
Oui, j'ai voulu dire, ajouter à ça que, déjà pour un interprète, qui n'est pas hospitalisé, qui n'a pas trop de souffrances psychiques, parce qu'on en a tous, n'est-ce pas? Et c'est déjà une expérience intense d'être sur scène. Et moi, comme danseur professionnel depuis 35 ans, je me souviens plusieurs fois où, après un spectacle, j'étais vraiment dans un état de déprime. Parce que ce que je suis, ce n'était pas en accord avec ce que je partageais avec mon public. Alors on sent un décalage, on se sent exposé, ça touche à notre narcissisme, ça touche à nos problématiques parfois pas claires, et cette expérience de se mettre face à un public, c'est assez intense. Parfois, je me souviens même une fois avec Bernard Domonté, on était au Théâtre de la Ville à Paris, 1200 personnes dans le public, et à la fin il y a eu une cinquantaine de personnes qui, pendant les applaudissements, au début des applaudissements, ils ont hué, Et moi, j'ai jamais senti ça. J'ai une réaction physique. Mes genoux, ils ont lâché. Je pensais que je vais tomber. J'étais, c'est directement le façon de huer, ça rentrait dans mes genoux. Peut-être ça passait par les ventres, je ne sais pas par quoi, mais c'était extrêmement rapide. Je réagis pour tenir debout. Et puis il y a une réaction qui a encore d'une centaine de personnes, c'était la guerre dans la salle, qui a commencé à dire bravo pour aller contre ceux qui huaient. C'était la guerre. Mais voilà, je voulais dire que c'est, ça affecte. On est dans une situation de partage intime. Et le rapport au public, ça peut vraiment, pour quelqu'un qui est fragile, être très douloureuse. Même dans le silence, même s'il n'y a pas de réaction, même s'il n'y a que les applaudissements, la kinesthésie, il y a un niveau de communication parfois qui n'est non-verbal, qui n'est pas très clair. Et ça pourrait être déstabilisant pour beaucoup de personnes.
On peut penser aussi que ces personnes qui donc sont évidemment des personnes... vous le dites, tout à fait en capacité de danser, de créer, de ressentir des choses, est-ce qu'elles ont peut-être pour certaines une sensibilité encore plus forte, potentialisée, par rapport à celle de personnes qu'on pourrait définir entre guillemets, avec plein de guillemets, normales, ou en tout cas une sensibilité différente?
Moi, je ne crois pas. Je crois que tout le monde est fabriqué de la même façon. Sauf que... structurellement, ça fonctionne pas que tout de la même façon. On est tous individuellement. On peut pas comparer un être humain avec un autre être humain au niveau de son histoire, par exemple, de son passé, de la façon dont il s'est servi de son passé pour construire sa vie, etc., etc. C'est unique. C'est toujours des cas uniques. Et je pense que, par exemple, moi, quand nous avons quelqu'un pour exposer, je prends du côté de la peinture, Dimitri c'est là-dedans, et exposer un tableau seul, ou à plusieurs de ces tableaux sans qu'il y ait personne, c'est très difficile, et puis ça va être stigmatisé, mais dès qu'on voit des gens qui sont avec d'autres gens, qui vont sur scène comme Dimitri, les genoux commencent à fléchir. Ben oui, c'est normal parce qu'on ne sait jamais comment il y a ce qui a été fait, ce qui a été présenté, mais les réflexions sur une œuvre, etc., peuvent être déstabilisantes. Mais sans qu'il y ait de réflexion, on peut tout d'un coup à la fin de quelque chose, à la fin d'un spectacle, à la fin d'une exposition. Peut-être se sentir en grande solitude. C'est-à-dire, on a présenté quelque chose, on a l'impression qu'on avait... Et tout d'un coup, on comprend, on peut saisir pourquoi on a eu tant de mal à faire, par exemple... je me souviens, nous avons présenté comment pour en finir avec le jugement de Dieu d'Antonin Artaud, il y a combien, six mois, je ne sais plus. Je ne sais plus. Et le temps passe et on ne sait plus. Eh bien, moi, je me suis trouvé, j'ai eu un mal de chien, puisque j'ai pris ma part dans le texte de j'ai pris ma part comme les autres, et j'ai découvert que j'étais pas dans mon état normal. J'étais tracassé. C'était indicible. Et il a fallu que se passe un certain temps pour découvrir que finalement je m'étais laissé lire. C'est pas moi qui avais lu le texte. Je m'étais laissé lire par ce texte qui est extrêmement violent, qui est extrêmement, enfin, très complexe. J'ai ressenti ça 8 jours après, c'était pas immédiatement, mais c'était 8 jours après, et je me suis dit, ben voilà, maintenant que j'en prends conscience, j'accepte d'être lu par le texte d'Artaud. Hein? Et que voilà, c'est, donc il y a des choses comme ça, ça peut être après coup qu'on se sent aussi déstabilisé par ce qu'on a fait, on va être envahi, et ça je pense que c'est très important que même qu'on y fasse attention dans après, à nous-mêmes déjà, pour nous-mêmes et puis pour tout le monde, hein, mais c'est en ça que c'est une création, c'est-à-dire on débouche sur quelque chose de nouveau pour soi-même aussi.
Mais bien sûr, je vais pas éteindre les micros, donc profitez-en.
Voilà, la différence, c'était ça, sur la différence d'expressivité entre personnes souffrantes et pro. Ouais. Il y a quelque chose qui, à l'époque, Bernardo Monte disait, il était épaté d'un des patients avec qui on travaillait en danse, pas en danse thérapie, en danse, et il a dit, mais moi j'aime bien, comme danseur, je me sens, ça me rend plus humble de voir sa capacité de changer d'état rapidement comme ça. Je dis, moi j'aime bien être aussi fort, un grand chorégraphe comme Bernardo Monte de dire ça, d'être aussi fort que ses patients qui, quand il prend un tapis de gym, il le met par terre, il se met dessus, il plie les genoux, il regarde devant lui et il se transforme en surfeur. Et il y croit. Et nous, on les croit aussi. On les croit qu'il est en train de faire du surf et c'est très fort.
Oui.
Et c'est une puissance. Et moi, je dirais la même chose pour Bruno, un de nos interprètes dans ce spectacle de ce vendredi, qu'il a beaucoup de difficultés avec les techniques, entre guillemets, de danse. Physiquement, c'est très difficile pour lui. Mais il y a des voies de passage. Et en métamodernisme, on s'en fout finalement. C'est un langage qu'on valorise et on met en avant avec une certaine esthétique. Alors si on n'a pas tous les protocoles de formation, ce n'est pas nécessaire si on a une œuvre sur laquelle on tient. Et voilà, et Bruno, souvent quand il fait un acte aussi simple que de lever son pouce face au public, fermer un œil et reculer en ralenti, il est fait avec une telle conviction, et comme Bernard le dit, on s'efface dans l'acte. C'est l'acte qui se met en avant, et l'individu, il va en arrière. C'est comme si on transcende notre narcissisme et on devient quelque chose de plus grand. Et on n'est pas en train de montrer notre beauté gestuelle, mais on est en train de vivre avec une intensité extrême un acte simple de lever les doigts, fermer l'œil, regarder le public et reculer. Et on voyait Bruno qui, chaque fois qu'il le faisait, il était à 100% dans cet acte. Et c'était très émouvant. Pour danseurs comme pour public non érudit. Il avait une force, voilà, des convictions. Il y a des différences, oui. Mais comme il y a aussi des différences d'un professionnel à l'autre. Ouais.
Bien, je propose qu'on fasse une seconde pause musicale dans cette émission La Méridienne sur Radio Campus Tours. Voilà, je suis toujours avec Roland Lebré et Dimitri Tsiapkinis. Nous parlons danse, psychiatrie et bien sûr du spectacle à venir, Newtopia 7.4, La Nuit Enchantée, le 27 septembre, 20h à La Pléiade. Et nous allons écouter Camilla Jubran. On se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tours. غريب
غريبة في هذا العالم، غريبة، وقد جبت مشارق الأرض وما
Camélia Jubran et Werner Hassler sur Radio Campus Tour. Vous écoutez toujours La Méridienne avec moi en studio, Roland Lebray et Dimitri Tsiapkinis. Messieurs, il y avait des mots comme ça qui vous faisaient réagir pendant cette pause musicale, entre autres intensité, lâcher prise, fragilité. Est-ce que vous voulez expliquer pour nos auditeurs qu'est-ce que ça évoque pour vous tout ça?
Oui, alors cette histoire des fragilités... Et que j'ai découvert aussi pour la première fois avec Bernardo Monte, lui-même très touché comme jeune danseur par Kazuo Ono au Japon, un danseur buto de grande renommée, qui est mort à 94 ans je pense, et jusqu'à la fin même il dansait sur un fauteuil roulant à la fin de sa vie. Et voilà la fragilité, parce que encore une fois on rentre dans des systèmes de rendement violente où tout dépassement, toute faiblesse elle est rejetée. On cherche à correspondre à des critères, on cherche à maîtriser absolument une série de processus et des outils, et le droit à l'erreur devient quelque chose de très très exceptionnel. Mais les scientifiques même pourraient expliquer peut-être à tout le monde d'urgence maintenant que grâce aux bêtises, il y a même une étude scientifique là-dessus, que la stupidité que les scientifiques en équipe peuvent se permettre peut apporter des réponses, de la solution qui était cachée, couverte par tous les processus protocolaires. Alors quand ils osent à aller dans le ridicule, à dire des bêtises sur leurs recherches entre eux, c'est là où on touche à la nouveauté. Parce qu'on se libère de cette poids constante de correspondre aux normes. Et l'humain, il est fait ainsi, il a besoin constamment de ce sens de liberté, de singularité, de promouvoir ce qu'il est, tout en trouvant des compromis constants avec les normes environnantes. Mais les deux sont importants. Et on vit de plus en plus dans un monde où la singularité, elle perd ses endroits d'expression. Et c'est pour ça, nous, on cherche dans notre travail aussi, Roland avec les arpendards aussi, on cherche à valoriser la fragilité et à trouver un esthétisme là-dedans. Comment l'abandon peut être un état transmissible qui touche autant que la maîtrise d'un geste fulgurant et virtuose. Voilà, les deux sont importants. Et on voit beaucoup de compagnies aujourd'hui qui sont tellement dans la maîtrise, j'ai même des amis à moi en Grèce, qu'ils sont dans une maîtrise époustouflante, comme Roland l'a dit tout à l'heure avec des compagnies chinoises, mais qui me sature très vite. Je l'explique d'une façon un peu populaire à mes amis. C'est comme si je mangeais un gâteau au chocolat délicieux. Je mange un morceau, je mange deux morceaux. Au bout de trois morceaux, j'ai envie de vomir. C'est délicieux. C'est vraiment un chef-d'œuvre, mais au bout de trois morceaux, tu n'en peux plus. Et il te faut échanger, il faut autre chose, il faut du vide, il faut sortir de la maîtrise absolue, il faut passer à autre chose. Parce qu'on n'est pas que ça, l'humain. On n'est pas que la maîtrise.
On n'est pas que la maîtrise. Non, bien évidemment. Je pense aussi, tout à l'heure, on a parlé de danse, pas danse thérapie, mais aujourd'hui aussi le mot thérapie est problématique parce que qu'est-ce qu'il y aurait à guérir si on a laissé passer des choses qu'on... Par exemple, dans une danse ou dans un tableau ou dans une lecture de texte, etc. Si on a laissé passer quelque chose qui nous surprend, c'est ça qui est important. C'est qu'il y ait quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose de pathologique si on est surpris et tout d'un coup on perd les mots, on sait plus d'où on est dans son geste, etc. C'est beaucoup plus intéressant que quelque chose décrit à l'avance, dont on connaît le début ou presque la fin quand on a vu le début. Donc je crois qu'il faut apprendre nous devons tous apprendre à accueillir ces moments où on est dépassé par nous-mêmes et donc on va au dehors des lignes tracées bien droites et voilà.
Ouais, en réponse à ce qu'il dit Roland, ça me fait penser à un psychologue qui est mort dernièrement aussi, et qui a fait une œuvre extraordinaire, James Hillman, post-jungien, qui a fondé la psychologie archétypale. Et lui, il était du genre, il a même dirigé l'Institut Jung, je pense, en Suisse. Et bref, il trouvait ça suspect, cette vague des thérapies aux États-Unis, parce qu'il a vécu longtemps là-bas. Et il disait, mais... ces thérapies-là qu'on est en train d'instaurer dans tous les niveaux, d'établir dans tous les niveaux, il me semble qu'il va vers un conformisme. On cherche à rendre l'individu plus conformiste pour qu'il puisse fonctionner dans une société plutôt malade. Alors, lui, il dit, moi, je préfère que quelqu'un aille s'occuper d'une œuvre artistique, qui aille vers les arts. Ça va lui donner plus de pouvoir d'action et de libération qu'une thérapie qui va le rendre conformiste. Voilà, c'était une très belle parole que je vais trouver dans le livre de James Hillman, qui m'avait soulagé aussi à l'époque. Moi, j'étais très souffrant avec des histoires de somatisation, des opérations ventre, je déprimais. Et une phrase, c'est le logos, comme on dit en psychanalyse, qui nous soigne, une idée, un mot. C'est pas une émotion, ni l'empathie, ni rien du tout, c'est une idée. C'était que la souffrance... la tristesse, c'est peut-être un mal nécessaire pour ralentir et prendre du temps à regarder des choses qu'on ne regarde pas d'habitude. Et c'est ça la thérapie, qu'on s'occupe de parties sombres de nous qui sombrent, qui n'ont pas eu de lumière de notre part ou des autres. Et on trouve ce temps, et ce temps-là, il a besoin qu'on se ralentisse, qu'on est lourd, qu'on est triste. Et dans cette tristesse, on peut laver, il a dit, le linge sale de notre âme. Voilà, alors c'est magnifique. Et ça, tout de suite, ça m'a libéré. J'étais en résistance constante envers ma souffrance, ma propre souffrance. Et là, je dis non, finalement, c'est pas aussi grave que ça. Et ça enlevait la moitié de ma souffrance déjà, cette connaissance-là. Et ça m'a permis de bouger. Je me suis pris en charge, j'ai commencé à m'entraîner pour être en forme et recommencer à danser. parce qu'à l'époque c'était encore la maîtrise qui prévalait, voilà. Mais ça m'a donné cet élan là, cette certitude que notre fragilité, notre tristesse, notre mal-être, ça pourrait être aussi un endroit où on peut se nourrir, et ce n'est pas juste l'abîme.
Alors pour en rajouter là-dessus, je crois que tout le monde devrait revenir un peu à Freud quand même, malgré le bannissement de la psychanalyse. En tout cas, moi, la psychanalyse m'a guéri, donc je ne suis pas allé à Lourdes. J'ai passé un certain temps sur le divan.
Sur la méridienne, justement.
Et Freud dit, le délire, chez la personne psychotique, par exemple, ou folle, le délire est une reconstruction. C'est-à-dire que là où tout est un peu foutu le camp, où la personne se trouve face à un réel innommable, eh bien, dès qu'elle délire, elle est dans la reconstruction. Alors que aujourd'hui, chercher la personne qui va vous dire que le délire est une reconstruction, c'est l'inverse. On dit que le délire, c'est un mal qu'il faut éliminer.
Prends un médicament.
Et qu'il faut éliminer. Et bien sûr, par des doses apocalyptiques, quelquefois, de neuroleptiques. Mais non pas qu'il ne faille pas en prendre de temps en temps pour apaiser, mais le délire, il dit, c'est une reconstruction. C'est le patient... alors, le délire peut l'amener vers des choses dangereuses, mais si on s'en occupe, si on s'en occupe bien, si on accepte d'écouter le délire, de prendre du temps... Eh bien, ça peut être une véritable reconstruction. Et une véritable reconstruction. Quand je vois, je cherche à faire parler les gens qui peignent, on parle de ce qu'on a fait, etc. Quand j'écoute un des grands de nos peintres là actuellement, eh bien, il, effectivement. Je pourrais dire, bah tiens, il me raconte un délire. Il me raconte un délire sur son tableau. Ben oui, parce que tout ça, c'est une reconstruction. Hein, c'est une reconstruction, mais qui n'est pas dangereuse, hein, et c'est qui est tout à fait normal, hein, en quelque sorte.
Alors cette émission, malheureusement, approche déjà à grande seconde de sa fin. Alors peut-être, Dimitri Tsiapkinis voulait nous détailler un peu plus ce qu'on verra ce 27 septembre à partir de 20h à la Pléiade, parce qu'il n'y a pas un, mais deux spectacles, mais deux performances. Alors, est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus ?
Oh oui, très bien. Oui, j'ai invité une vieille amie avec qui on a collaboré en Grèce, avec un collectif qu'on a créé ensemble entre 2004... En 2002, entre 2002 et 2008, parce que en 2011, en travaillant avec elle, j'ai fait un solo pour elle et avec elle. Elle a participé à la construction dramaturgique. On avait les mêmes questionnements qu'on verra dans la pièce d'après, Polities. Ça veut dire la conviction qu'il y a un rapport sensible. Ça veut dire on est à l'écoute, on accueille. Des corporéités, des états de corps et qui ne sont pas que la maîtrise, justement, on les accueille. Et ça, c'est déjà cette posture-là en soi, et c'est un pas vers l'émancipation de l'individu. Et on a commencé de ce principe-là, et on a parlé de notre rapport au monde, à la politique, à l'égocentrisme, l'ethnocentrisme. Hein, les liens avec nationalité, d'autres disaient nationalistes, et de nouvelles postures qui sont cosmocentristes. Ça veut dire, moi, je dépasse même les frontières de mon ethnie, je pense à l'humain, je pense au minéral, je pense au végétal. Je pense à tout ça plutôt que rester dans ma bulle de communauté, comme il a dit Roland tout à l'heure. Alors, il y a un discours là-dessus, comme Filio Louvari, qui est actuellement aussi directrice du festival de Milos, en Cyclades. C'est plutôt musique et théâtre, mais on a des projets peut-être de s'ouvrir vers la danse. On va l'épauler sûrement. Elle voulait interroger avec ses qualités aussi de comédienne. Elle est danseuse et comédienne. Alors, elle parle au public. elle raconte des histoires et elle danse. Et qui continue après avec la pièce où on a 22 interprètes, construit d'une façon, on appelle ça l'écriture du plateau. On écrit au fur et à mesure des répétitions et on laisse venir des matières de nos interprètes et on met un peu une certaine ordre aléatoire, semi-aléatoire à la fin pour ne pas totalement dépoussoler le public entre maîtrise et non-maîtrise, voilà, et qui apporte aussi leur questionnement sur le vivre ensemble, la démocratie, le fait d'être citoyen et le fait de partager avec des personnes souffrantes ou échanger avec les enfants ou valoriser la femme, valoriser les minorités. Toutes ces questions-là, voilà, ils sont touchés par cette communauté très hétérogène. Il faut que je rajoute, je suis obligé de rajouter aussi, qu'on est soutenu quand même pour tout ça par la DRAC Centre Culture et Santé, l'ARS Centre, le CHRU de Tours, le Fonds de dotation 3737 fondé par Laurent Lebré, la Ville de la Riche avec la Pléiade, la Fondation SNCF, on a reçu le coût solidaire 2019 de la Fondation SNCF, le Centre de danse et de théâtre de Milos, des Cyclades, Grèce, et puis le Centre social de la Rabière. Merci.
Voilà. Merci à vous, messieurs. Donc, on rappelle, merci. Une dernière fois pour nos auditeurs, Newtopia 7.4, La Chute Enchantée, la Pléiade, 27 septembre 2019 à 20h. Évidemment, on réserve sa place sur omnivion.net.
Oui. On peut et aussi acheter les places si on n'a pas réservé sur place
hein, mais venez plus tôt pour éviter les queues, oui. et ne dérangez pas la Pléiade, ce n'est pas eux qui gèrent la billetterie.
C'est... Ouais, c'est important de le préciser parce que je suis sûre que nos auditeurs vont tous se précipiter pour voir ces deux spectacles. Ben,
hein, nous espérons.
Voilà, 20h02 et 20h45 Polytheies. On retrouve évidemment Omnivion et les Arpandards sur les internets. Vous avez des sites, vous êtes sur les réseaux sociaux, je pense.
Oui, aussi, oui.
Les deux. Bon.
Oui.
Eh bien, merci. Le mot de la fin, Roland Lebré. Vous voulez
ajouter ? Eh bien, venez le 27.
Voilà, c'est ouais. Tout.
À 20h.
Et préparez-vous à être décoiffé.
Merci, messieurs. On se quitte sur ça. On se prépare à être décoiffé. À la Pléiade, il est l'heure de rendre l'antenne. C'était la Méridienne sur Radio Campus Tours. À demain.